15 décembre 2020 a eu lieu la lecture pratique de l'encyclique Laudato si du pape François, proposée par le père Pellepig.
Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Bien, maintenant, si vous voulez bien, on va entrer dans la lecture. Comme on a prévu de le faire, nous vous proposions de prendre le chapitre 1, qui est peut-être un peu long à lire, mais en même temps, le pape nous parlait de choses plus ou moins connues. Peut-être nous a-t-il permis de préciser des connaissances, de mieux les situer, hein, donc du numéro 17 au numéro 61. Ce qui se passe dans notre maison. Et nous vous proposions donc sur chacun des 7 points observés par le pape, la pollution et le changement climatique, la question de l'eau, la perte de la biodiversité, la détérioration de la qualité de vie humaine et dégradation sociale, l'inégalité planétaire, la faiblesse des réactions et la diversité d'opinions. Voilà ces 7 points que l'on retrouve dans la table des matières. Eh bien, quelle idée principale avons-nous envie de retenir? Finalement, qu'est-ce que le pape nous dit d'important sur chacun de ces points? Peut-être d'abord sur l'ensemble du chapitre. Est-ce que vous avez retenu une idée sur l'ensemble du chapitre? Une idée globale. Qu'est-ce que vous avez repéré? Sœur Jacqueline?
Oui, simplement que la terre est en danger. Elle a abîmé. Et il est grand temps de réagir pour voir ensemble ce qu'on peut faire.
Vous voulez rajouter ?
Non, c'est pour ça, c'est un état des lieux actuel.
C'est ça.
Merci.
Oui, un état des lieux. Oui, François, pardon.
Que la dégradation concerne en fait tout le monde et tout ce qui vit sur Terre. Tout est concerné parce que tout est imbriqué en interconnexion avec tout ce qui se passe.
C'est intéressant, c'est la réflexion sur l'imbrication du social, du développement. Disons que de tout, il n'y a pas grand-chose qui a échappé à sa réflexion. On l'entend.
Les symptômes d'un point de rupture.
Terrible ça, oui. Les symptômes d'un point de rupture, hein, sans, on nous le dit. Voilà, le pape reprend cette observation-là. Point de rupture, attention. Hein. On l'a entendu entre autres sur la forêt amazonienne.
Hein. Oui, l'amplification des inégalités sociales qui crée aussi et amplifie aussi les phénomènes d'immigration qui va se développer. C'est pas que la terre qu'on doit cultiver, c'est tout un ensemble. Ça, c'est innovant.
Oui. Du coup, cette attention à l'ensemble, hein, peut nous aider aussi à illustrer ce qualificatif d'intégral. Hein. Vous vous rappelez qu'avec le pape, il met en avant l'écologie intégrale. Eh bien, je pense qu'on est en train d'illustrer un peu qu'est-ce que ça veut dire, écologie intégrale. C'est bien la prise en compte d'un ensemble vivant, quoi. Pas simplement la terre polluée, pas simplement des hommes, mais c'est bien un ensemble au-delà de ces seuls deux éléments. Voilà. Autrement dit, moi j'ai noté hein, au numéro 19, le pape, il invite un à prendre une conscience douloureuse de là où nous en sommes aujourd'hui, et deux, reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Ça, me semble-t-il, un enjeu qu'il donne véritablement, c'est à la fois une prise de conscience, et donc on va observer quelques grands champs de notre milieu vivant, et quelle implication il y a pour moi, hein, puisqu'il parle bien chacun, donc je suis certainement concerné, comment chacun de nous peut contribuer à cette écologie intégrale. On peut peut-être regarder un peu plus dans le détail sur pollution et changement climatique. Qu'est-ce que vous relevez de particulièrement important dans ce passage sur cette question des pollutions et du changement climatique?
Et ce grave problème des déchets.
Oui. Et alors, comment il en parle, du problème des déchets?
C'est quand même, il constate qu'il y a des tonnes de déchets qui sont déversés
oui.
aussi bien dans les mers que dans des endroits qui sont... Et que c'est hautement toxique et radioactif.
Oui.
La pollution en règle générale.
Pardon?
La pollution en règle générale.
Oui. Sur cette question des déchets, j'ai trouvé très intéressant son expression. C'est pas ici, pardon. Oui. On n'est pas, c'est au numéro 22, on n'est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on assume le produit de sa production jusqu'à finalement sa conversion, sa destruction, ou en tout cas sa transformation, pour pas qu'il reste un déchet. Et il prenait le modèle d'un fonctionnement de certains milieux naturels, où en fait, c'est le principe de l'écosystème. Il y a une logique de fonctionnement dans un écosystème qui fait que c'est au numéro 22.
Bon, on relit simplement, juste cette phrase que tu viens de dire.
On n'est pas encore arrivé à adopter un modèle circulaire de production. C'est ça. On réutilise ce qu'à un moment on peut désigner comme déchet, finalement, c'est réutilisé pour autre chose.
Et là, on ne réutilise pas.
Dans notre fonctionnement, on n'arrive pas à ça encore. Pas pour tout, en tout cas.
Dans un autre côté, il pose la question aussi, est-ce que vraiment on veut changer les choses aussi?
Oui.
Voilà, et dans plusieurs paragraphes, on retrouve cette idée-là. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce que vraiment on veut le faire?
Et encore une fois, je trouve que ça amplifie les inégalités, puisque les grands pollueurs, c'est les pays riches, et ceux qui font les frais, y compris la réforme des matières plastiques, etc., ou des bateaux remplis d'amiante, c'est les pays pauvres.
Voilà. Ça revient quasiment sur chaque petit paragraphe, que moi j'ai appelé des paragraphes, hein, cette question des implications pour les pays pauvres et les plus pauvres. Et notamment ici, concernant les pollutions et le changement climatique, ce qu'il signale, c'est que malheureusement, les pires conséquences devront être supportées par les plus pauvres. Parce que ce sont justement eux qui ont le moins de moyens pour s'en sortir. C'est-à-dire, si de fait ils habitent au bord de l'océan, et qu'on sait que les eaux vont monter, bon, mais les gens riches, ils vont prendre leurs bagages, ils vont aller s'installer un peu plus haut sur la montagne, alors que les gens pauvres ne peuvent pas. Enfin, je schématise un peu rapidement, mais on entend ça, hein. Ils sont les plus exposés.
Et on peut rajouter qu'on amène nos poubelles dans certains de ces pays.
Ça, il le dit un peu plus loin, en effet. C'est que c'est au niveau du recyclage de nos déchets, on se sert d'eux, encore une fois. C'est une horreur.
Mais tout à l'heure, on est passé vite là, au niveau de la confiance.
Oui,
il dit la confiance irrationnelle. On n'a pas vu venir, hein, quelque part.
En quoi, cette confiance irrationnelle?
Là, vous m'entendez parce que j'arrive pas à lire ça. Après un temps de confiance irrationnelle dans le progrès, dans la capacité humaine, une partie de la société est en train d'entrer dans une phase de plus grande prise de conscience. On avait les comportements qui étaient fous sans aucune réflexion.
Sans aucune réflexion. Oui, parce qu'à la fois, ça fait quand même 50 ans, au moins 50 ans qu'il y a le mouvement écologique, politique, qui veut faire entendre une voix, mais que nous n'entendons pas, ou qu'on ne nous laisse pas entendre. En tout cas, il y a 30 ans, me semble-t-il, la voix écologique, elle était plutôt marginalisée. Moi, ce que j'entends là fort avec le pape François, c'est que lui, il met le pied dans le plat et il dénonce, justement. Il dénonce le grand système économique mondial qui fait que quelques-uns des plus puissants veulent imposer un fonctionnement à tous les autres. Au détriment, encore une fois, des plus pauvres. Nous, on est peut-être un peu au milieu, on échappe un peu à quelques catastrophes, je dis peut-être, hein, je ne sais pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est que, voilà, d'une certaine manière, on peut se faire avoir par un système qui nous ferait entendre que c'est la bonne chose que de faire telle ou telle chose. De ce fameux progrès, hein, cette confiance irrationnelle dans le progrès. À partir du moment où on avançait l'argument du progrès, pouf, il n'y avait plus rien à dire. Tout était dit.
Mais si on remonte, moi j'ai vécu dans un village qu'on traitait de tout le monde. Les anciens, on voyait qu'ils étaient vachement écolos. Ils jetaient rien, ils récupéraient, ils transformaient.
Et... ils avaient moins à jeter aussi. Tu n'avais pas d'emballage, tu n'avais pas tout comme ça, ou très peu.
Oui.
Le poisson était vendu dans le papier journal, c'était un recyclage déjà avant ça.
Oui.
Le marchand de poisson, il passait la rue, il emballait son poisson dans le papier journal.
Votre ficelle, il le gardait, ça va vous servir.
Et en même temps, où je vois le danger dans ce qu'on est en train de dire, c'est de dire les gouvernements, c'est une façon de se déresponsabiliser aussi, puisque si la demande des produits proposés n'étaient pas acceptés par une prise de conscience particulièrement des jeunes, on aura aussi, on contribuerait facilement. Je crois que le pape, à un moment donné, je ne sais pas si c'est là-dedans, il dit la solution pour l'écologie, c'est d'être un peu plus pauvre. Voilà. Donc, est-ce qu'on est aussi prêt à lâcher un tout petit peu de notre confort pour. Voilà. Donc, voilà, les gouvernements, ils essaient de satisfaire la demande qui émane de tout le monde.
Mais je pense, pardon.
Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard ?
Non.
Le meilleur argument pour rien faire, c'est trop tard.
Oui,
mais... pour la catastrophe.
Moi, je crois qu'on a laissé beaucoup trop les choses aller.
Ouais, trop, mais c'est pas la raison pour rien.
Jamais trop tard pour rien faire.
Ouais. Oui, est-ce qu'on va pouvoir récupérer ?
Oui. C'était la question du point de rupture, hein, que vous soulignez dès le départ, Geneviève. Voilà, sur certaines choses, il est probable qu'il y ait des points de rupture que nous dépassions. Mais, pour autant, ce n'est pas tous encore.
Oui, oui,
il y a peut-être des choses encore.
Et peut-être que ce n'est pas la bonne attitude à avoir. Si je cherche à récupérer, c'est-à-dire que je pense encore à ce qu'il y avait avant. Et c'est, l'avenir n'est jamais fait avec l'avant. C'est avec ce qu'il y a derrière, vous excusez. Qu'est-ce que nous avons à construire aujourd'hui ? C'est lamentable ce qu'on voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Ils cherchent à relancer la consommation pour se rassurer. Ils n'ont qu'un seul paramètre, c'est est-ce que ça tombe ? Ding, ding. C'est tout. Tout le reste, ils n'en ont rien à foutre. Donc, et ça, c'est là qu'il faut qu'on soit hyper vigilant. Dire, ce n'est pas ce paramètre-là qui nous intéresse. Même s'il est très important pour vivre, mais ça veut dire qu'il va falloir de fait changer des fonctionnements de vie. Pas simplement adapter quelques petites affaires. Alors quoi, comment, je ne sais pas encore. Mais ne cherchons pas à nous dire, soyons comme avant. Pour le moment, on est encore là.
Je vous propose, on passe au paragraphe suivant sur l'eau. Qu'est-ce que vous avez repéré de ce que le pape peut dire ?
C'est que ça coule.
Ça coule. Plus ou moins, ça coule.
Moins en moins.
Oui, c'est pas comment ça coule. Quoi. La rivière coule, mais le bateau aussi.
Je l'ai relu ces jours derniers, il pleuvait à verse. Bon, ça passe pas, mais quand même. Ouais, il y a des régions où il pleut pas.
L'eau, c'est la vie. Et oui. Quand on voit le nom.
Et donc l'eau, c'est la vie. Et quelle est la conclusion du pape à ce sujet
Il faut que tout le monde puisse accéder à de l'eau potable.
C'est ça, numéro 30. Hein. L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial. Il l'affirme, hein, numéro 30. L'accès à l'eau potable et sûre est un droit humain primordial. Il est une condition pour l'exercice des autres droits humains. Ça doit nous interpeller. Alors bien sûr, d'une certaine manière, j'entends bien que ça peut nous échapper directement, encore une fois. Mais après, il y a des choix politiques auxquels nous participons étant en démocratie. qui peuvent aller dans un sens ou dans un autre. Et puis ça nous interpelle nous-mêmes sur notre propre consommation. Hein. Justement, est-ce que je peux aller vers une modération, peut-être, par exemple, hein, qui me vient à l'esprit en entendant ces paroles. Parce qu'il y a un verbe qui m'effraie, je n'avais pas fait attention à la première lecture, mais à la deuxième lecture, hein, où il parle, le pape, de la privatisation. Voilà. Tendance croissante à privatiser cette ressource.
Faire de l'argent.
C'est terrible.
Oui. Enfin, d'un autre côté, quand même, bon, ce que j'ai vu, la privatisation, dans je prends l'exemple d'une grosse usine, c'était les arsenaux de Tarbes, où ils ont, alors, entre guillemets, c'est déjà une société privée, ils s'occupaient eux-mêmes de leur réseau d'eau, et ils ont sous-traité à une de ces grosses sociétés, qui ont passé 3 week-ends à fermer tous les robinets et à regarder les compteurs. Et ensuite, ils ont passé 3 mois à boucher les fils une par une. Et en 3 mois, ils avaient réduit de 50% la consommation. Alors, privatisation, ça a un autre avantage, je crois, c'est de confier ça à des gens qui connaissent et qui ont le temps de s'en occuper. Parce que c'est sûr, le service technique, c'est comme ici, c'est pas l'homme d'entretien qui va s'occuper de toutes les fuites d'eau. Donc, attention quand même à ne pas non plus jeter le bébé avant le lac, on dit. Dans certains cas, et dans beaucoup de villes, j'ai vu le même cas pour des réseaux de chauffage urbain en Roumanie, la société qui s'en est occupée, où ils n'arrivaient pas à dépasser 12 degrés dans les hôpitaux, et 3 mois après, ils avaient 20 degrés, on est réduit de moitié la consommation d'énergie. Parce qu'ils avaient fait la chasse aux fuites, parce que... Donc ça, c'est l'avantage aussi de créer... Bon, alors c'est peut-être aussi... Je me laisse peut-être prendre par la solution technologique, mais c'est une façon de réparer quand même sans technique nouvelle. Donc, ces sociétés qui cherchent à faire de l'argent, d'un autre côté, dans certains cas, elles sont utiles. Non, on ne peut pas garder l'un, mais pas l'autre.
Oui, oui. Pour moi, la question, c'était simplement... Si cela peut être simple, c'est effectivement cette question de l'accès à l'eau pour tous. Voilà. Il y a une très... Moi, ma relation à l'eau a changé avec le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, « Va, vie, deviens ». Lorsque ce petit garçon éthiopien est emmené en Israël, et que pour la première fois de sa vie, il prend une douche. Et lorsqu'il voit l'eau passer dans le... Au moins, il est complètement paniqué. Et ça dit bien cette relation à cette ressource... indispensable, qu'on n'a pas tout à fait la même, quoi. Selon les milieux de vie dans lesquels on se trouve.
Alors, j'ai vu aussi cette semaine qu'il y a énormément plu. Donc, on pourrait penser que
la nappe phréatique est pleine.
Se remplir. Or, les intermondialistes ont l'air de dire que la façon où les cultures sont menées, la terre a du mal à absorber, puisque l'eau glisse dessus. Voilà, il y a des inondations partout, etc. Donc, la technologie, oui, mais voilà.
Vous trouvez un juste équilibre. Oui. Bien sûr. Le point suivant sur la perte de biodiversité.
Plus exactement le texte, mais ce qui me fait penser, c'est un peu un parallèle avec l'aspect culturel. Avant, quand on allait voyager, on découvrait les plats typiques ou les manières de faire typiques. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on trouve les mêmes magasins partout, avec la même organisation et tout ça. C'est-à-dire qu'on perd aussi, au niveau sociologique, au niveau culturel, on aplanit tout. Donc on a nos petits repères, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus à à aller vers l'aventure, vers l'inconnu. Alors on nous apprend à réduire notre champ de vision et de compréhension du monde de plus en plus. Partout où on va, c'est la même chose. T'as McDo, t'es tranquille. Alors voilà, c'est la question de la diversité. Qu'est-ce qu'on est en train de réduire, quoi? Et du coup, même au niveau des animaux et des plantes, Ça réduit.
C'est ça. Et le pape, il attire l'attention, entre autres, au numéro 33, sur le fait qu'on fasse attention aux espèces animales ou végétales qui nous sont utiles et qui sont exploitables, et qu'on dénigre en fait celle qui pour l'instant on n'en voit pas trop l'intérêt. Mais le pape attire notre attention sur le fait que, à cause de nous, des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu. Alors nous, chrétiens, je pense qu'il y a une interpellation forte sur ce sujet, c'est qu'effectivement, comment nous laissons la place à toute créature, qu'elle soit utile ou pas, à notre fonctionnement, quoi. Et que, l'argument, le critère économique ne peut pas être le seul pour savoir habiter la Terre. Ça, j'ai trouvé ça fort, quand même.
Mais toutes ces espèces animales ou végétales qui disparaissent en tous les 10 ans, il paraît que c'est affreux le nombre de toute cette vie qui disparaît et qui a son rôle.
Bon, on nous parle moins de toutes les espèces nouvelles qui apparaissent aussi. Or, il y en a aussi. C'est impressionnant là. Je dis ça pour voir, qu'on sache aussi, plutôt que de nous plomber en disant « ça y est, on fait des conneries », regardons la vitalité de la vie et la capacité de cette vie à travers des espèces qui s'adaptent. Enfin, c'est impressionnant, hein, la capacité d'adaptation des animaux. Hein. C'est...
Et des plantes. Hein.
Et des plantes aussi. Et des plantes
aussi. Naturel, oui.
Il montrait en Chine une plante qui a été surexploitée justement pour le profit humain. Ils se sont aperçus sur 80 ans, je crois, peut-être un peu plus, elle a réussi à se mettre ailleurs et à devenir caméléon pour se cacher des humains. Enfin, c'est un truc de fou, chose qui n'existait pas avant. Et là, ils découvrent que c'est la même plante, simplement, elle s'est fait caméléon. C'est phénoménal.
Disons que la vie s'adapte.
Oui, 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 tout à fait.
Et la vie est forte.
Et c'est bien là-dessus qu'il faut qu'on s'ancre, sur cette espérance absolue. La vie, de toute façon, elle va gagner. Voilà. Peut-être moins pour les humains, mais de toute façon, la vie, elle va gagner. Est-ce qu'on va être capable d'être là-dedans? Et je le dis maintenant parce que j'ai peur de l'oublier après. Parce qu'une des questions, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps de partage ici, hein, si c'est juste pour nous gargariser, ça ne sert pas à grand-chose. C'est comment on va pouvoir susciter d'autres, peut-être à venir nous rejoindre, avoir des idées, enfin, alors créer d'initiatives. Soyons attentifs à ne pas évoquer tous ces sujets-là uniquement à la négative. Je fais pas mal d'animations avec des jeunes, et du coup, les jeunes, quand on vient sur ce sujet-là, c'est, moi, de toute façon, les humains, c'est des gros cons, et que du coup, il vaudrait mieux qu'ils disparaissent de la Terre. Non, non, mais ils te le disent au premier degré. Hein.
C'est désespérant.
Oui, mais c'est hyper désespérant. D'accord. D'abord sur l'humain, quoi. Et du coup, il y en a certains, il y en a qui sont en vif, mais il y en a plein d'autres qui disent, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, on est des gros cons, on a fait que des conneries. Et de fait, on dit, on n'est plus rattrapable. Et donc, il faut qu'on soit très, très vigilant, tout à la fois alerté, mais se baser sur des points positifs et sur des chemins possibles. Parce que sinon, voilà.
Bien, la perte de biodiversité. Moi, je soulignais deux points de questions politiques de la part du pape, encore une fois, qui appelle à des vraies solutions. Je note notamment au numéro 42, hein, il est nécessaire d'investir beaucoup plus dans la recherche pour mieux comprendre le comportement des écosystèmes. Enfin, je trouve ça, enfin, nous pouvons être attentifs à ce genre de propositions. Encore une fois, peut-être directement il nous échappe, mais sur nos choix politiques en démocratie que nous pouvons faire, nous avons un rôle à jouer. Sur ces choix-là, d'investissement, qu'est-ce qui va compter? La production, je ne sais pas quoi, de centrales nucléaires ou de sous-marins nucléaires, ou bien cette question de bien connaître les écosystèmes, leur fonctionnement pour être le mieux adapté, le mieux en relation avec eux. Bon, c'est une interpellation forte, je trouve. Numéro 4, sur la détérioration de la qualité de la vie humaine et de la et une dégradation sociale. Donc là, il nous parle de... Donc c'est les numéros 44 à 47.
43 à 47.
Merci, 43 à 47.
Moi, j'ai une observation à faire sur notre société d'aujourd'hui. C'est le peu de responsabilité qu'on transmet à nos jeunes. Ils sont responsables. Quand on voit après les jeunes à qui on demande de faire attention, ils passent leur temps à se rencontrer, à danser, à chanter, alors qu'ils vont transmettre à leurs grands-parents la maladie, quoi, le virus. C'est une non-prise en compte de la responsabilité de chacun qui m'interpelle beaucoup.
Peut-être qu'on passe au numéro suivant, là, sur l'inégalité planétaire.
Pour répondre un peu,
oui, ma sœur, je vous en prie. Hein.
C'est plus en compte de nos responsabilités, d'accord, mais je me souviens, au premier confinement, on disait, certains magasins étaient ouverts, éviter d'y aller en famille. Et je voyais des couples de retraités non invalides qui allaient à deux en même temps dans le même magasin. C'était irresponsable aussi, ça faisait une personne de trop dans le magasin d'un seul coup. Alors, bon, c'est pour ça que ne parlons pas trop non plus de responsabilité des jeunes, je crois qu'on est aussi dans certains cas.
Et puis, puisque tu évoques la question des jeunes, parce que des fois, quand on est grands-parents, tout ça, on se croit un peu... mis de côté, quoi. On dit, voilà, je ne suis plus à la plaque, je suis plus à la page. Or, on s'aperçoit ô combien... Les grands-parents ont une place très importante pour leurs petits-enfants. Et que du coup, vous avez quelque chose à vivre auprès d'eux, à être interpellant et à vivre quelque chose avec eux. Des fois, pas grand-chose. Ben, Jean-Pierre, raconte ton petite histoire que tu nous évoquais de ton petit-neveu. C'est pour dire l'impact qu'il peut y avoir. À la messe. Que tu lui montrais le texte.
Je ne sais pas, mon petit neveu.
Ah, mais je ne sais pas qui c'était. C'était un petit gamin, quoi. Enfin, peu importe qui c'était, mais
c'est pour le droit.
Ton petit ami qui était là le dimanche à la maison à la chapelle. Il m'a remercié chaleureusement en partant. Il m'a dit vous m'avez fait beaucoup de bien, etc. Que je ne lui ai rien fait.
Voilà.
Alors je cherchais dans ma tête, et puis je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui ai montré chaque dimanche, parce qu'il était assis à côté de mon père qui servait la messe, le texte du jour. Et je lui ai dit, lis avec moi. Et ça l'a beaucoup touché.
Et je crois fondamentalement que du vivre ensemble est très important. De vivre ensemble. Alors, peut-être en tant que grands-parents, être inventif à dire qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants, déjà pour les lâcher de leurs écrans, parce que les parents aussi. mais voilà, il y a des choses parce que ça les touche très fortement avec des presque rien. Mais pour eux, ça les marque. Comment leur proposer une balade dans la nature pour leur dire... Si vous êtes passionné de la nature, la passion, elle se transmettra. Voilà.
Je vous savez.
Mais moi, je pense qu'effectivement, ils sont responsables, les gamins. Parce que là, pour la période là, actuelle, ils sont les premiers à nous dire, faites attention. Nous, on ne se fait pas. On le voit parce que je suis grand-mère. Mais c'est vrai que les petits-enfants, ils sont là. Non, on ne va pas voir papy et mamie. Il faut qu'ils se protègent. Il faut qu'on se protège. Donc effectivement, moi personnellement, je ne sais pas rien, mais on se voit par les moyens internet, etc. Tant ils ne sont pas loin. Et quand ils viennent, s'ils viennent, bon, mais c'est loin aussi, quoi. Il faut se protéger. Et protéger les papiers d'amis.
Je vous propose donc de passer au point 5, l'inégalité planétaire. Qu'est-ce que vous avez repéré de ce que le pape nous dit ? Donc ça rejoint bien ce que vous soulignez dès le départ, c'est de dire que voilà, les pauvres sont les premières victimes de toutes les affaires de mauvais comportement écologique. Et que M. Van Steen soulignait aussi donc, cette connexion que le pape soulignait entre écologie et politique. Hein, c'est la fin au numéro 49. Hein. Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement.
Et au numéro 50, je ne sais pas, j'ai peut-être pas compris, il y a une réflexion sur la croissance démographique.
Oui.
J'ai l'impression que le thème général, c'est qu'il ne faut pas la maîtriser. Et c'est là où je ne suis pas trop d'accord, notamment quand on voit ce qui se passe, par exemple, au Nigeria, où il y a une croissance énorme. Du coup, les villes ne peuvent plus se maîtriser. Elles grossissent. Les besoins d'eau, c'est un peu... Il n'y a même plus moyen de mettre en place des plans d'assainissement. La ville grossit plus vite que n'importe quel peu le temps de mettre le plan. Alors c'est là où il y a quand même sans aller jusqu'à la décroissance démographique qui va être certain, mais je pense que là, je ne vois pas ce que vient faire dans ce texte, ce discours, en disant les solutions de maîtrise de croissance démographique ne rentrent pas dans ce cadre. Quand même, ça m'a un peu gêné.
Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, lui, le pape, il dénonce ceux qui se permettent de dire que la solution, c'est que les pays en voie de développement fassent cet effort-là de maîtrise des natalités. Et je comprends que le pape, finalement, veut résister au fait de réduire la seule vraie solution à cet aspect-là. Parce que, si j'ai bien compris, le pape dit qu'il y en a qui se contentent de dire c'est ça le problème. Le seul problème qu'on a, c'est la démographie, le développement démographique, et donc résolvons ce problème et tout ira bien. Le pape dit non, c'est pas ça, c'est pas juste.
C'est un élément des solutions.
Voilà. Ça après, je crois pas qu'il la rejette entièrement, mais il dénonce plutôt le fait de s'en servir comme seul point d'attaque. Accuser l'augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes. Il va jusque voilà. C'est ce qu'il pointe, hein, numéro 50 à la fin. Oui. Il y a un problème de population, certes, mais le vrai problème, c'est le consumérisme extrême et sélectif.
Moi, je crois que tu as raison, mais si on fait une approche mondialiste, je pense que la nature est suffisamment bien faite pour être capable de réguler la population globale de la Terre. Alors, si c'est vrai qu'il y a certains pays où il y a une suractivité, il y a d'autres pays où on souffre effectivement de la baisse de... Voilà. Oui. Donc si on essaye de ramener ça à une moyenne mondiale et qu'on a une vue plus mondialisée, peut-être que le problème s'équilibrera davantage. Voilà. Mais ça, c'est une approche politique malgré tout.
On voit dans ce passage hein, essentiel où le pape dénonce donc la dette écologique entre le Nord et le Sud. Vous l'évoquiez au début, Françoise. C'est là qu'on le trouve, hein, cette dénonciation de la dette écologique entre le Nord et le Sud, notamment les fameux déchets qu'on va transporter, nous, les gens du Nord, pour que ceux du Sud nous les recyclent. Merci beaucoup. Le fait que, on continue d'exploiter ces zones-là pour s'enrichir chez nous, pendant qu'on continue d'appauvrir ceux qui sont sur place. Et donc c'est pour ça que le pape, il parle d'une dette écologique. Et au numéro 52, il affirme « Il faut que les pays développés contribuent à solder cette dette. » Ils ont leur part, et leur part plus importante certainement que d'autres.
Mais c'est pas en route ça, parce que je voyais un article sur les voitures Tesla.
Oui.
Qui sont les super voitures...
Les voitures Tesla.
Oui, qui sont les super voitures complètement automatiques, qui sont propres. Elles ont je ne sais plus combien de centaines de kilos de batteries à l'intérieur. De quoi ces batteries sont faites? D'abord, on ne sait plus qu'en faire une fois qu'elles sont finies. Après, elles sont composées de métaux qui sont des métaux rares que l'exploitation de ces métaux se fait dans des endroits de la Terre où c'est des gamins qui grattent avec leurs doigts pour essayer de trouver le lithium ou le je sais plus quoi, et qu'en fin de compte, on n'a pas du tout compris. Hein. On est à côté de la plaque, là.
Et ça risque d'amplifier, c'est pas encore trop visible, la migration climatique.
Oui, hein, ben oui, ben oui.
L'équilibre, l'équilibre se fait encore. Et on leur vole leur terre, on les achète, on les soucie.
Il y a des déchets que c'est... Ils font des grands tas de... Ils font des grands tas de déchets qui balancent dans la mer, bon, c'est pas mieux. Enfin bref, c'est un vaste circuit qui est pas du tout... qui est à l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça.
Mais y compris la France, hein, quand ils ont voulu réformer le dernier porte-avions qui était bourré d'amiante, ils ont sous-traité, je sais pas où.
En Inde, oui, on l'a su. Il y a eu un aller-retour, je crois, oui, il y a des allers-retours. Et...
Voilà.
C'est terrible. Donc, on n'arrivait pas là.
On est très individualiste, en fait.
Oui. Ben, c'est égoïste. C'est égoïste, c'est-à-dire que le fait, je ne m'occupe pas de l'autre.
En fait, non, au contraire, c'est, on leur donne du travail.
Ouais, c'est ça. On se donne bonne conscience.
J'ai trouvé que le pape nous donne un critère que j'ai découvert, enfin, ouais, pour moi il l'a verbalisé ce critère-là, puis, peut-être vaguement dans ma tête, mais je trouve ça très, enfin moi ça me trouble beaucoup, et ça m'a permis de comprendre un peu qu'est-ce qui a pu se passer il y a 2 ans en France autour des gilets jaunes. Numéro 49, les problèmes que nous connaissons. Cela est dû en partie au fait que beaucoup de professionnels, de leaders d'opinion, de moyens de communication, de centres de pouvoir sont situés loin des pauvres, sans contact direct avec les problèmes des exclus. Ceux-là réfléchissent à partir de la commodité d'un niveau de développement et à partir d'une qualité de vie qui ne sont pas à la portée de la majorité de la population mondiale. Et on a bien vu autour des gilets jaunes, lorsque pour une lutte écologique efficace, la seule chose qu'on a su proposer à un moment, c'est dire augmentons la taxe. Forcément, les gens qui utilisent comme seul moyen de déplacement possible la voiture au diesel, forcément, ça leur fait tourner la tête. Et je comprends qu'effectivement, c'est certainement des Parisiens qui ont bien pensé avec leur métro électrique et qui vont nous dire comment nous, on doit faire à la campagne pour circuler. Et ça, c'est un petit exemple, un tout petit exemple. Je ne crois pas trop me tromper qu'on peut partir de la France, mais je pense que c'est vrai au niveau mondial. Me semble-t-il, j'y connais pas grand-chose, mais de ce que j'ai pu entendre autour de la 5G. Voilà, on nous fait entendre que la 5G, ça va être super, voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas premier ? On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'eau. Avant de faire que nous ayons tous la 5G, ou même que quelques-uns aient la 5G, pour être encore plus vite connectés, est-ce qu'il n'est pas plus important que nous ayons tous de l'eau, puisqu'elle est primordiale ?
Bien sûr.
Oui, c'est ça. Avant la connexion au fond de la campagne, est-ce qu'on peut s'assurer que tout le monde ait de l'eau potable ? Enfin, je pense qu'on en a les moyens.
En fin de compte, de fait, il nous propose un changement de culture assez radical.
Le pape,
un changement de culture.
Le pape propose, oui. D'accord.
Mais ça, il faut petit à petit, il va falloir que ça rentre d'une manière très concrète dans nos habitudes. Juste la question des cadeaux de Noël. Comment nous réfléchissons un peu de décroissance ? Est-ce qu'on a besoin de faire 1000 cadeaux aux enfants ? Quel style de cadeau on propose ? Ah oui, mais ça lui plaît, les trucs. Oui, mais n'empêche qu'on continue à aller dans le même sens. Est-ce qu'on va être capable d'être proposant fort ? Bien non, comme cadeau, je te propose de passer un week-end à la maison. Ça va être le cadeau que je t'offre. Ou je vais te proposer d'aller faire ceci ou ça. Mais autre chose que je te donne à jouer.
Smartphone.
Oui, ou un smartphone, enfin un peu peu importe, mais on est tous dans ce même cas-là. Est-ce que nous sommes capables de vraiment réorienter et dire le pourquoi? C'est pas que je suis rapia, c'est pas que je peux pas te l'offrir, c'est que je veux t'offrir autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on réfléchit là, il faut qu'on se mette systématiquement dans notre tête, qu'est-ce que je peux faire?
Changer les mentalités.
mentalité. Hein.
Oui, mais les mentalités, oui, mais tout à fait. Mais c'est ça la grosse difficulté. C'est le problème de la conversion. C'est changer les habitudes. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme style de cadeau pour que ça réoriente le style de vie et de leur montrer qu'est-ce que c'est que la richesse de la vie plutôt que d'avoir des cadeaux.
C'est la question qui est prévue hein, dans le déroulement que nous partagions sur notre conversion possible, pratiquement. Voilà.
Est-ce que pour ça, la pandémie n'est pas une bonne chose, en fait ?
De quoi ?
La pandémie, c'est pas une bonne chose pour ça, parce qu'on réfléchit beaucoup à ce qu'on consomme, pourquoi on surconsomme, pourquoi on va faire ça à toute allure, pourquoi on a besoin de tout ça. Et non, on n'a pas besoin de tout ça.
Oui, alors la question, c'est très très bon qu'on soit obligé de s'arrêter et de réfléchir. La grosse question,
c'est comment on va c'est,
voilà. Où est-ce qu'on reprend pareil ? Parce que les businessmen, ils poussent à... On fait comme avant.
Le problème, c'est pour résister.
Il n'y a pas que les businessmen. Hein, qu'à regarder les magasins, dès que c'est ouvert, les gens s'y ruent. Hein.
Oui, non, mais
c'est...
oui, tout à fait.
Il n'y a que dans les magasins.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est fermé depuis un mois, les gens, certains sont en état de manque.
Et comment, autour de nous, arriver à... Tiens, mon père de compte, il n'y a pas besoin d'aller là-bas. C'est dans les pays du Nord. Ils ont fait un travail de presque de culpabilisation de ceux qui prennent les avions.
Ah oui, c'est vrai.
Et ils ont une expression, je me trompe. Comment tu vois, tu prends l'avion avant, c'est tu prends l'avion. Non, tu prends l'avion, toi. Mais n'empêche que c'est important. Parce qu'il y a comme ça, parce que du coup, les autres disent bah, du coup, je peux pas me revenir en disant putain, j'ai plus de ça.
Pourquoi j'ai pris l'avion
Bien. Voilà. On ne va pas avoir le temps de regarder davantage le texte. Simplement, au numéro 53, on retrouve bien ce que tu dis, Vincent, et que souligne le pape. Le problème est que nous n'avons pas la culture nécessaire pour faire face à cette crise. Voilà, le pape le dit bien. Donc, il y a une conversion à vivre. Hein. Il nous y appelle. Conversion culturelle aussi. Au numéro 53. Bien.
Le gros problème de la culture, c'est qu'on a... On n'a pas tout mis dans. Mais on est obsédé par les gadgets et on oublie l'essentiel, les petites choses. Pour les enfants, c'est très vrai. Ça me fait la peine à Noël quand on voit une avalanche de cadeaux, ils se précipitent dessus et après c'est. Et
après,
ça
se fait. Après, ils jouent plutôt avec la boîte qu'avec le jouet.
Ils jouent avec la boîte ou ceci, cela.
Ils ont des initiatives avec les boîtes d'emballage, puisque avec leur jouet,
Mais déjà, je trouve que cette année, il y a peut-être une prise de conscience
que
Amazon et tout ça, ça ne fait pas du bien au commerce local. Je crois qu'il y a une petite prise de conscience. Et voilà.
Ça fait réfléchir.
C'est quand même relativement nouveau.
C'est déjà ça.
C'est vrai, ce que disait Miguel, point de vue culture du gadget, quand Lego a inventé ses briques, c'était des briques Lego et le gamin, il construisait ce qu'il voulait. Quand tu regardes maintenant, 90% des Lego, c'est quoi ? C'est toutes les briques qu'il faut pour faire tel vaisseau spatial. Il n'y a plus aucune... Alors bon, si... Après, ils l'adaptent un peu, mais ils perdent en imagination.
Il faut qu'ils réfléchissent.
Alors qu'avant, ben, imaginez qu'est-ce que je pourrais construire avec ça. D'où le succès, d'ailleurs, des Caplas, espèces de barbares, ils font des trucs...
On canalise.
Et nous, on avait
le mécano. Oui, on avait le mécano.
Bon, l'avalanche, c'était le mécano.
Le même mécano après, ils ont commencé à faire des boîtes spécifiques pour faire tel modèle, c'est tout. Quand tu faisais le modèle, tu le mettais sur l'étagère, il est beau, ah oui, il est beau. Alors que sinon, le mécano, le jeu, c'était de tous les montages pour faire en plein. Donc là, c'est vrai que c'est, en plus, on a perdu un peu cette notion culturelle de travailler par soi-même, d'imaginer par soi-même. Ah, c'est les gamins des pays pauvres qui vivent plus avec la boîte parce qu'ils ont la boîte. Ouais. Avec la boîte, ils font des tas de trucs.
Maintenant, il y a des choses qui reviennent aussi. Hein. Il y a des jouets qui sont en bois, il y a plein de choses aussi qui
sont en
bois.
Oui, absolument. Il y a des choses, même au niveau de la création, il y a des choses qui peuvent être faites.
Hein. Je vois aussi autour de nos enfants, il y a aussi une pression sociale telle que si mon gamin n'a pas tel truc et tout ça, il va être décalé à l'école. Bon, voilà. Il y a une pression sociale qui est énorme.
Ça a toujours existé.
Oui, mais elle est peut-être encore plus maintenant, et peut-être que c'est là, vous les grands-parents, que vous avez un grand rôle à jouer. En les valorisant sur les petites choses. Et ne pas s'émerveiller parce qu'il a la dernière Nintendo, je ne sais pas quoi. Mais avoir cet impact-là.
Et pour le vestiaire des enfants et ceci, cela, où ils ont une course à la marque, à ceci, à cela, il y a des solutions toutes simples et qui font hurler la plupart des intellectuels, c'est qu'ils aient tous un tablier commun.
Bon, ils ont tous des jeans.
Voilà, mais non, mais autrefois, on avait tous un tablier, c'est vachement bien. Tablier, ouais, la marque est dessous.
Après, ce n'est qu'une période, ça. C'est pas tout le temps. Il y a une des périodes où effectivement il y a les copains. Après ils savent tout seuls, si on leur explique le pourquoi et le comment, ils arrivent tout seuls à faire la distinction. Hein.
Ouais, mais
je pense que voilà, il suffit déjà que les gamins ils comprennent. Ils comprennent le pourquoi, parce qu'il y a des familles qui effectivement où ils n'auront jamais le pantalon X marque, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Mais c'est à faire comprendre aux gamins qu'il ne faut pas être tout le temps en train de lui montrer « moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi c'est comme ça ». C'est l'histoire de... Voilà, c'est de l'éducation.
Ah, c'est la pression sociale aussi.
Et ça vient de... Oui, mais bon.
C'est quand même de répondre. Derrière ça, c'est la grosse, grosse question, surtout pour les ados, de l'estime de soi.
Ouais,
voilà.
Et moi, j'ai une estime de moi forte, et plus il va me falloir des choses de valeur pour me faire croire que je suis quelqu'un. Donc là aussi, on a vraiment un impact à vivre auprès d'eux.
Il s'estime en fonction des choses qu'il a sur lui.
C'est ce qu'on leur apprend. Une certaine culture, en tout cas, de notre monde.
Il faut beaucoup de tact, parce que sinon on évite des has-beens.
Alors c'est ça, tout à fait. Il faut beaucoup de tact, sinon on évite des has-beens. Ouais, mais t'es un vieux, tu comprends pas.
Ouais, t'es vieux.
Oui, tout à fait.
Sur le texte même, est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Ça va? Chapitre 1, Jean-Pierre.
Je veux dire qu'il faut pas se méfier, mais bien comprendre le système du discours pontifical en général. On peut prendre toutes les encycliques sociales, alors, depuis peut-être Léon XIII, qui est plus proche que nous, qui est plus lointaine, parfois. On parle toujours de ce qui est négatif. Pour mettre en valeur ce qui suit et qui est positif. Alors il faut se méfier de notre façon de lire. Si nous nous attardons sur tout ce qui va mal, nous désespérons. Mmh. Parce qu'il y a matière à désespérance. Mais il faut bien s'empresser, c'est pour ça que je m'arrête de parler, de lire le chapitre 2 et suivant.
Mmh. Tout à fait.
C'est le système, c'est dans les cultifs fratelli qui est une autre cité. C'est le même système de rédaction.
Merci de cette précision.
C'est tout. Merci. Et ça m'intéresse, je ne parle pas du discours du
pape. Oui, oui.
Et j'ai une profonde admiration.
C'est vrai, c'est-à-dire que le meilleur est à venir.
C'est ça. Oui, tu as fait ça.
Oui.
Demain, il
faut. Ça ne vient pas tout seul, ça dépend des
autres. Ce n'est qu'un chapitre pour prendre une conscience douloureuse parce que la situation est grave. Mais en même temps, rappelez-vous le numéro 19, en même temps, reconnaître la contribution que chacun peut apporter. Voilà. Et donc, peut-être maintenant, si vous voulez, on peut peut-être échanger. Vincent a commencé à éveiller nos esprits. À la lecture de ce chapitre-là, dans l'échange que nous avons commencé à avoir ici, est-ce qu'on pourrait peut-être échanger sur quelle conversion me vient à l'esprit que je pourrais vivre, qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer dans ce sens-là.
Sur tout l'ensemble.
Sur les questions qu'on a vues là.
Ah, oui, à partir de ce chapitre 1, mais bon, peut-être aussi un peu au-delà, mais...
Je pense
comment moi je vais contribuer personnellement. Après voilà... Pour moi, l'intérêt, c'est qu'on partage nos questionnements pour nous aider les uns et les autres à avancer vers notre conversion écologique. Sœur Jacqueline.
Moi, je pense aux divers gaspillages que nous vivons dans nos sociétés, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, on gaspille beaucoup.
quand on voit tout ce qui est jeté dans les poubelles, il faut dire que j'ai été marquée par un séjour de 14 ans dans un autre pays, mais où il fallait aller chercher l'eau dont on avait besoin toute la journée, dans des jerrycans. Et quand j'arrivais à la communauté Unitaine, en France, quand je suis revenue, je peux vous assurer que je pourrais fermer un robinet qui goûtait. J'avais pris des habitudes. Mais là, je crois qu'il faut faire attention. Il y a tant de gens qui ont faim, qui ont soif, qui n'ont pas de l'eau, qui meurent oui. parce que l'eau n'est pas potable.
Là, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, sinon, on revient sur des constats, que, oui, partout. La question, c'est concrètement, là où je suis, au berceau ou dans les environs, quel est mon moyen d'action?
Eh bien, fermer le robinet, t'as raison.
Voilà, alors déjà, fermer le robinet, vérifier les fuites comme tu évoquais, c'est toi qui évoquais tout à l'heure, c'est qui?
Non, M. Vanstein qui évoquait les fuites.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, hein.
Mais c'est une vraie révolution que vous avez proposée. Hein. Et moi, je crois que c'est bête ce que je vais dire, mais je crois que c'est évident. Et la seule révolution qui est possible, et la seule qui est vraiment efficace, c'est la sienne. C'est-à-dire par rapport à tout cela, hein, c'est, mais ça c'est immédiat, ça on peut jouer, on peut essayer de jouer sur soi. Mais pas aller développer des grandes idées qu'on va imposer aux autres, plus ou moins par la force ou par la contrainte. Et c'est entraîner, qui c'est qui parlait des grands-parents, c'est vous. Et les enfants, c'est pas les enfants à faire une banane en montagne, mais dont ils s'extasient devant un truc comme ça. Et s'ils sont tout le temps devant leur écran, c'est ça. Moi je pense que il faut le lire d'une façon générale, parce que le monde est complètement concerné. Mais qu'est-ce que j'ai à faire
Moi, c'est la réflexion qui me vient quand même, c'est que, bon, on a tous à peu près les mêmes âges. Quand on parlait d'écologie, c'était des marginaux, voilà. Après, globalement, le regard de la population en général vis-à-vis des cathos, c'est pas forcément positif. Et là, on a eu l'occasion unique d'élargir notre cercle, d'être allé vers le périphérie, parce qu'on a un sujet qui touche autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et il y a des gens engagés des deux côtés. Et ce que je trouve, c'est qu'à partir du moment où c'est le pape qui l'a dit, il y a plein de gens qui ne vont pas regarder, qui vont le jeter quasi automatiquement, alors que ça rejoint le discours de l'écologie politique ou engagée. Et là, on a un travail à montrer que on est comme les autres, on a un travail à faire ensemble. Et ce point-là, on le voit très très fortement dans la solidarité, par exemple vis-à-vis des plus démunis, vis-à-vis des plus des migrants en situation énormément difficile, où je vois que les milieux politisés et les milieux religieux arrivent à travailler main dans la main. Et ça, je trouve que de ce que je vois, c'est du jamais vu. Et là, on a quelque chose à faire. Autrement dit, il ne faut pas que les cathos ou les religieux s'enferment sur un truc, le pape a dit, donc c'est un discours qui est beaucoup plus universel que ça.
Oui, mais je crois que c'est dépassé. C'est dépassé.
C'est même inversé, parce que l'encyclique du pape a eu beaucoup plus d'impact en dehors de l'Église qu'au sein des cathos.
Voilà, et moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est que notre pape est reçu par tous les milieux. Personne ne s'est moqué de lui, vraiment.
Non, pas se moquer
de lui. C'est un éveilleur, c'est un... C'est vrai, c'est...
Mais par contre, les cathos, de quoi qu'ils s'occupent, de quoi qu'ils se mêlent.
Voilà. Ah oui, mais certains cathos.
Et donc,
c'est
on a...
Grave, mais c'est pas grave.
Une autre chose qu'on peut faire, ça va être un peu dans le sens que tu dis, il y a déjà plein de belles initiatives. Oui. Donc comment les relayer? D'abord, comment nous en nourrir pour nous en émerveiller? Et vraiment, il y a des belles initiatives, que ce soit des jardins partagés, que ce soit des prises de conscience, que ce soit des... il y a aussi des sites qui donnent de la pédagogie de sensibilisation. Parce que c'est ça notre premier enjeu, en dehors de fermer le robinet,
c'est comment faire prendre conscience autour de nous de tous ces enjeux-là. Et il y a plein de moyens très concrets qui sont là. Et une fois qu'on a des bons arguments, qu'on s'en imprègne de plus en plus, on peut plus facilement être dans le dialogue avec les autres. Je crois aussi que comme autre élément de conversion, c'est pas de se mettre en frontal, en disant « t'es con de faire ça », ou « il faut pas », ou « tu devrais », parce qu'obligatoirement, on braque et l'autre s'en va. Rentrer en vraiment système de discussion, de réflexion commune, et de demander à l'autre comment il perçoit telle ou telle chose. Et alors à ce moment-là, on peut avoir un impact qui va se diffuser. On n'est pas les seuls porte-drapeaux à faire que ça va faire quelque chose, hein. Bien loin de là. Ce serait bien qu'on s'y mette.
Et c'était une bonne chose quand on a vu que tous les gouvernements qui pensaient à l'écologie et se réunissaient pour faire des lois universelles ont attendu la sortie de ça pour mettre en place leur réflexion et leur piste de...
Oui, enfin, ils n'ont pas attendu, mais voilà, il y a une convergence d'affaires.
Oui, mais je crois que c'était un petit peu voulu quand même.
Ben, disons que ce qui était voulu, c'est que le texte sorte avant la COP21.
Voilà.
Pour donner un peu de... qu'on ne soit pas que sur l'aspect technique, mais en prenant du recul sur l'esprit fondamental.
Voilà, ça donne un corps à... Voilà.
Mais c'est pas l'ONU qui a fait un discours ou pas aux États-Unis. C'est... Il a été applaudi quand même. Et ça, je trouve ça bien quand même. Il y a un rapprochement, il y a une ouverture, qu'on se prête à chacun. Les écolos, ils étaient dans leur truc, les cathos dans leur truc, les gens de gauche dans leur truc, les gilets jaunes dans leur truc. Mais jamais de convergence, il n'y a jamais d'union. On a eu l'occasion quand même de dépasser nos...
Il y a sûrement un public très sensible, c'est les trentenaires, parce qu'ils commencent à... Enfin, ils ont des enfants. Et du coup, ils disent qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Et donc c'est un public qu'il faudrait qu'on arrive à se dire, tiens, comment on peut les rejoindre et peut-être avec eux réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais ils sont vraiment pas mal sensibles.
Et ça viendra d'eux-mêmes, parce qu'on a des enfants qui ont à peu près cet âge-là, là, comme vous dites, ont 30, 40 ans, et qui nous disent, alors qu'ils jetaient beaucoup de choses. Moi, je vois mes filles... Alors qu'on leur a toujours appris, moi j'ai toujours appris à utiliser les restes, baser ça. Ils disent, mais non, il faut le jeter, ça c'est foutu, c'est fini, et tout ça. Et là, j'ai des coups de fil de ma fille qui habite en Allemagne qui me dit, tu sais que j'ai fait un gratin avec ce que. Elle a trouvé. Mais c'est, ça vient d'elle, c'est bien. Il faut que ça redevienne leur chose aussi. Il faut que ça soit eux qui réinventent. Hein.
En sachant aussi que nul n'est prophète dans son pays, des fois on est mieux ajusté à parler à quelqu'un extérieur de la famille. Que à ses propres enfants, parce que de fait, il y a le côté éducatif qui dit maman, elle est encore là.
Bon, on passe aux enfants, en fait.
Donc, cette question-là, en quelque sorte, elle peut revenir à chaque rencontre hein, pour que vraiment, en toute simplicité, on puisse se stimuler les uns les autres dans ce mouvement. Ce que le pape, à la fin du texte, hein, c'est-à-dire la fin de l'encyclique hein, qui parle de cette conversion écologique. Et moi, à mon avis, j'ai beaucoup de choses à vivre, à en vivre, mais c'est pour ça que j'ai besoin que d'entendre d'autres comment ils font pour m'aider moi, comment m'y prendre. Quoi. C'est simplement ça l'intention, c'est pas du tout une indiscrétion, mais qu'ensemble on puisse partager comment avancer.